France Inter.
Aujourd'hui, au cœur des mouvements climat, racontés par
Laurence Marty, chercheuse en anthropologie.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Certains ricanent et disent qu'il est trop tard, mais ce qui nous attend n'est pas un big flash comme peut l'être une déflagration atomique, une fin du monde brutale et instantanée, un rideau qui tomberait, ignorant les possibles qui poussent un peu partout. Non, quoi qu'il arrive, cela va se déglinguer pendant des siècles et ça ne va pas être drôle. Mais c'est avec cela qu'il faut penser si on veut penser par le milieu. Alors ma hantise, c'est que peut-on fabriquer aujourd'hui qui puisse être éventuellement ressource pour ceux qui viennent? Et donc pour moi, tous ces points d'intelligence, tous ces points d'émergence d'une culture écologique et sociale active qui font résurgence dans les milieux ravagés font partie de ces ressources. Il ne faut pas leur demander s'ils sont capables de nous sauver, mais ils couplent, comme à Notre-Dame-des-Landes, la lutte contre la dépendance généralisée qui tue nos mondes et une culture de la sympoïèse, des créations de sensibilité et de rapports entre humains et non-humains qui génèrent ces sensibilités. Et c'est peut-être ce qui est digne d'être légué, transmis, ces points de résistance et d'intelligence qui ont déjà pu faire résurgence et qui vont continuer à le faire. Pas mal de jeunes et de moins jeunes ne s'y trompent pas, ils cherchent des lieux où la vie repousse. Mine de rien, pas mal de choses ont changé depuis 20 ans. Isabelle Stengers, Résister au désastre, publié en France en 2019 par les éditions Wild Project. Bonjour Laurence Marty.
Bonjour.
Une partie de ce texte figure en introduction de votre ouvrage « Apprendre et lutter au bord du monde, récit de mouvement pour la justice climatique ». Ça sort aux éditions de La Découverte. Isabelle Stengers pose cette question, hein, qu'est-ce qu'on peut fabriquer aujourd'hui qui puisse éventuellement être ressource pour celles et ceux qui viennent? Et c'est cette question aussi qui structure votre ouvrage.
Oui, merci beaucoup pour d'avoir relu ce passage que je trouve vraiment très beau. Et en effet, c'est la question qui a vraiment guidé l'écriture du livre. Pour resituer, du coup, c'est un ouvrage qui est issu de ma thèse en anthropologie qui portait sur les mouvements pour la justice climatique entre 2014 et 2017 en France hexagonale et principalement en Île-de-France. Et la question qui m'obsédait pendant l'écriture était tout le temps celle de qu'est-ce qui pourrait... quel type de récit on a besoin pour nourrir des résistances, des sortir du « on ne peut rien faire, il est déjà trop tard » et tous ces discours dans lesquels on baigne et qui nous rendent impuissants.
Alors que la vie repousse déjà par endroits, en fait, c'est ce qu'elle nous dit, Isabelle Stengers, hein, dans ce texte, avec des points de résistance et d'intelligence. Et vous les avez rencontrés, vous les avez côtoyés justement?
Bah, c'est ce que tente alors humblement et à certains endroits seulement parce qu'il y en a beaucoup de raconter le livre en du coup en autour de 5 récits qui vont suivre chacun des lieux de vie et des collectifs climat en France hexagonale et qui cherchent justement des prises du coup pour lutter face au dérèglement climatique.
Comment vous, Laurence Marty, personnellement, vous avez rencontré et découvert le mouvement climat?
Alors, ça commence en août 2014, donc un an et demi, à peu près un an et demi avant la COP21, où, alors que je veux me lancer dans un projet de recherche de master plutôt sur les lieux de vie alternatifs, j'avais travaillé auparavant sur les trajectoires des jeunes qui passent par Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, du coup, j'avais rencontré les mobilisations environnementales, écologistes, en 2012, à ce moment-là, donc dans un moment quand même assez fort où il y avait eu la première grande vague d'expulsion, de répression, etc. Donc j'étais déjà quand même dans ce mouvement écolo-autonome, quoi, disons. Mais la question climatique, elle n'était pas au centre. Et pendant cet été 2014, je passe presque un mois dans un lieu de vie qui s'appelle, enfin que j'appelle l'Aubépine.
Dans le Morbihan.
Dans le Morbihan. Et plus pour travailler sur un peu. Qu'est-ce que permettent de créer sur un territoire des lieux de vie alternatifs? C'est plutôt ça la question avec laquelle j'arrive. Et en fait, au fil des semaines que je passe dans ce lieu, je rencontre des gens qui sont impliqués dans la lutte contre le dérèglement climatique depuis déjà presque 10 ans pour certains. C'est un lieu qui a la particularité d'être composé de militants français, mais aussi de militants britanniques. Mmh. Et donc, du coup, ça croise aussi avec l'histoire du mouvement européen. Et donc, je vais découvrir cette histoire.
Donc, dans ce lieu, dans lequel vous êtes resté combien de temps, d'ailleurs ?
3 semaines.
Ouais, ce nous, très concrètement, hein, en fait, vos premières discussions sur le GIEC, sur Copenhague, ouais. Sur les mobilisations à venir, entre jardins, cantines collectives et réunions qui s'esquissent aussi pour la COP21. C'est tout ce que vous ouais. vivez à l'Aubépine, donc dans le Morbihan, là.
Oui, tout à fait. Il y a, en fait, déjà de me rendre sensible, de rencontrer des gens qui vivent vraiment au quotidien avec cette pensée du dérèglement climatique et de comment on peut agir face à cet enjeu qui s'organise déjà depuis très longtemps avec des camps climat qui ont été très impliqués aussi. Donc, des camps climat, c'est des sortes de rassemblements qui durent 1 à 2 semaines tous les étés en Europe depuis le milieu des années 2000 et qui à chaque fois s'organise aussi en résistance à un grand projet inutile, une extension d'aéroport, enfin voilà, des choses comme ça. Et donc c'est des gens qui ont été impliqués dans ces camps et qui se sont aussi mobilisés autour de la COP15 de Copenhague en 2009 et qui ont été très impliqués dans cette mobilisation et qui les a beaucoup marqués parce qu'ils s'étaient organisés autour de l'idée que c'était vraiment le sommet de la dernière chance.
Ouais.
Il y avait même une campagne qui s'appelait Tic Tic Tic. Et toute, enfin, c'est assez, je trouve, étrange de se dire que déjà en 2009, on était sur ce discours et comment l'urgence, elle a sans cesse été rethématisée. Mais du coup, déjà en 2009, il y avait ça, le rapport du GIEC de 2007 qui était alarmant déjà. Et du coup, ces militants qui s'étaient impliqués vraiment à corps perdu dans cette COP qui avait débouché sur. Aucun accord ouais. Contraignant.
Vous évoquez la gueule de bois post-Copenhague qui traverse donc les récits. Mm-hmm. Pour en parler, on va écouter cet extrait de France 3. C'était dans le 19-20 en décembre 2009. Donc.
Voici le texte de toutes les controverses. Les délégations, les ONG ont beau le relire, il y a peu de chiffres et pas d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais les pays développés promettent de mobiliser jusqu'à 100 milliards de dollars par an de 2013 à 2020 pour aider les États les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Ce délégué du Bangladesh a du mal à y croire.
Tous nos espoirs ont été réduits à néant. Donc, on est très frustrés. Ce texte, c'est juste une déclaration politique et pas un accord juridiquement contraignant.
Voilà, Copenhague 2009, Laurence Marty, une grosse déception hein, pour les militants. Ça déplace beaucoup les espoirs, finalement, aussi, autour de ces mouvements climat.
Eh bien... Bon, ce qui est intéressant et que j'essaie de raconter avec la complexité aussi de ce qui se trame dans ces mouvements, c'est que le mouvement, enfin, ces mobilisations autour des COP, donc des sommets pour le climat, elles découlent des luttes altermondialistes qui s'organisent depuis le début des années 90 et qui sont extrêmement critiques des arènes multilatérales internationales comme l'OMC, le G8, le G20, tout ça. Et là, avec la COP, on arrive, c'est un peu différent parce que c'est aussi un levier et on a besoin de négociations multilatérales pour aboutir à un accord. Mais c'est donc comment on fait pression sur une arène qu'on sait qu'elle ne va pas déboucher sur l'accord qui sera nécessaire. Et en même temps, c'est forcément un endroit... En fait, on a besoin d'un accord contraignant pour pouvoir enrayer ce qui nous arrive. Donc il y a cette espèce de tension comme ça qui traverse les militants et que j'essaie de raconter et qui date pas de 2009, qui la précède et qui va les poursuivre oui. jusqu'à aujourd'hui.
Vous écrivez que ces COP sont à la fois donc un problème et un levier et c'est un double statut évidemment éminemment d'actualité alors que démarre aujourd'hui la COP30 de Belém au Brésil. On va en parler bien sûr avec vous. Vous vous rappelez l'importance des imaginaires politiques du zapatisme à Seattle par exemple en 1999. Comment ces références-là irriguent aussi, j'allais dire, les tactiques festives, parfois disruptives, les mises en scène autour des sommets climat.
C'est une histoire hyper importante et le livre, c'est vraiment de raconter aussi ces histoires et c'est vraiment aussi ça qui, je pense, peut être ressource pour celles et ceux qui viennent, c'est contre la tendance à oublier nos histoires de lutte, se rappeler qu'en 1999, le mouvement altermondialiste a bloqué l'OMC, le sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce. Enfin, c'est quand même un truc énorme qui ouais. semble inenvisageable aujourd'hui, mais qui l'a été en 1999. Et c'est un mouvement qui aussi, donc là vous parliez du zapatisme, mais qui s'est beaucoup inspiré de la lutte zapatiste qui est encore très présente encore aujourd'hui. Enfin, c'est pas du tout une lutte qui se conjugue au passé. Et du coup, ces imaginaires à la fois... Enfin, il y a un texte de Starock qui s'appelle « Comment nous avons bloqué l'OMC » qui est incroyable et qui raconte à la fois l'articulation entre les Black Blocs, les Pink Blocs, enfin toutes les stratégies et toute cette diversité des tactiques, ce que vous décrivez comme festif. Enfin, comment on organise un blocage tout en... essayant de préfigurer le monde qu'on veut voir advenir et qu'on fait déjà exister. C'est un peu tout ça qui essaie d'être tenu ensemble.
L'été 2014, justement, hein, cet été que vous vivez pleinement, vous, avec l'Aubépine dans le Morbihan, l'idée, c'est pas de, évidemment de resubir Copenhague et cet échec cuisant, c'est de préparer au contraire la séquence qui va suivre un an plus tard avec la COP21, avec des allers-retours vers Paris aussi. Oui. Il y a tout un mouvement qui s'organise.
Ben, c'est ça, du coup, donc, j'arrive à l'Aubépine, je n'ai pas l'intention de travailler forcément sur les mouvements climat, mais ce qui se passe, c'est que certaines des personnes qui habitent ce lieu se rendent à Paris parce qu'il y a l'université d'été d'Attaque pendant l'été 2014. Mmh. Et c'est donc un an et demi avant la COP21. Ils sont déjà en train de réfléchir. Et en fait, ça fait déjà 6 mois que la coalition Climat 21 est en train de se structurer en vue de penser ce moment de la COP21 pour les mobilisations. Comment on s'organise autour de ce sommet? Comment on ne reproduit pas la gueule de bois post-Copenhague? Comment on essaie d'utiliser cette fenêtre médiatique et politique pour propulser un mouvement puissant? Enfin voilà, c'est toutes ces questions qui viennent d'être travaillées.
Laurence Marty, dans cette enquête, hein, puisque c'est une enquête aussi pour vous anthropologique, qu'est-ce qu'on apprend des chemins individuels finalement pour comprendre comment se compose aussi un grand mouvement?
Vous voulez dire comment les personnes rentrent dans ce mouvement ?
Oui, et comment leur engagement aussi se tisse dans le collectif.
Et ben c'est, enfin du coup le premier chapitre est, enfin récit, parce que j'appelle ça des récits, et c'est de raconter aussi comment du coup ces engagements, enfin qui sont quand même hyper forts, c'est des personnes qui enfin, là, c'est en tout cas, c'est des personnes qui sont pas salariées par des organisations. Enfin, du coup, qui font que du travail militant gratuit, bénévole, et qui par ailleurs essaient de, en même temps, faire tenir un lieu de vie agricole. Il y a une maraîchère sur le lieu qui, elle, du coup, est beaucoup plus dépendante et peut, enfin, est beaucoup moins flexible dans sa possibilité de bouger, de quitter le lieu, et donc du coup. Il y a toutes ces tensions sur comment on essaie de faire tenir un lieu de vie parce que c'est aussi ça qui nous donne du souffle et qui nous donne des prises dans un long terme et comment, en même temps, on ne cesse de se déplacer dans telle réunion, à tel niveau, local, international, régional, etc.
Et justement, qu'est-ce que ça vous apprend, l'Aubépine, autour de ce qui se passe précisément dans ce lieu de lutte par rapport à des réunions nationales qui ne montrent pas toujours la réalité justement des individus?
Et je pense que ça aussi, c'est un des trucs importants que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est un peu tous les doutes qui traversent les militants, les phases aussi de dépression. Enfin, quand on dit gueule de bois post-Copenhague, c'est pas juste une expression, il y a vraiment des militants qui ont fait une dépression et qui se sont retrouvés vraiment complètement sans plus d'ouverture de vision possible de un accord contraignant n'est pas envisageable et que le grand soir révolutionnaire apparemment n'a pas prévu d'arriver, comment on fait et comment on se mobilise? Et du coup, l'idée, c'est aussi de rendre l'épaisseur et la complexité de ces trajectoires individuelles et collectives et comment c'est aussi des bifurcations personnelles hasardeuses qui vont faire qu'on se retrouve impliqué.
En tout cas, on voit ce que vous racontez, c'est que ce sont de vrais lieux d'apprentissage aussi, hein, où on expérimente énormément ces lieux, hein, comme l'Aubépine justement dans le Morbihan, avant de pouvoir ensuite peut-être généraliser aussi dans des mouvements un peu plus larges, un peu plus importants.
Bah, tout repose pas sur des lieux de vie collectifs et agricoles, mais en tout cas, il y a cette dimension d'apprentissage et qui va passer par, en fonction des trajectoires, par des études à l'université, par l'engagement dans tel collectif, par telle histoire dont on hérite. Enfin, ça peut passer par plein d'endroits. Mmh. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de raconter comment un engagement, c'est quelque chose qui se fabrique, s'apprend et se reconfigure aussi en permanence en fonction de rencontres, d'événements. Et comment c'est pas quelque chose... Enfin, ça aussi, pas du tout... Enfin, des fois, on a cette idée que les militants sont très sûrs d'eux. Alors qu'en fait, il faut énormément de... de courage pour faire semblant qu'on sait ce qu'on fait, alors qu'en fait, profondément, une phrase qui revient beaucoup à l'aubépine et qui est, je trouve, très puissante, c'est « on ne peut rien faire, mais on ne peut pas ne rien faire ». Et donc, du coup, à partir de là, qu'est-ce qu'on essaie d'inventer, qu'est-ce qu'on essaie de porter ? Parce que sinon, c'est laisser un boulevard, sinon, c'est fermer les yeux sur une réalité qu'on ne veut pas... nier, et c'est aussi s'empêcher d'imaginer un monde vivable pour la suite.
Et ce sont ces récits de mouvement pour la justice climatique dont vous témoignez dans ce livre aux éditions de La Découverte. Laurence Marty, on va basculer dans un instant dans la séquence COP21, donc il y a tout juste 10 ans, avec ces coalitions, ces débats tactiques, et puis un contexte évidemment d'attentat en France, où l'état d'urgence doit faire irruption. Et puis nous attendons bien sûr vos messages et vos questions pour notre invité sur la page de La Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Quand vous avez entendu Laurent Fabius annoncer depuis sa tribune que l'accord de Paris pour le climat est accepté, vous vous êtes dit quoi sur le moment ? C'est gagné, enfin, ou le plus dur commence ?
Tout commence. C'est-à-dire qu'il y a eu la construction de ce cadre international avec la formulation d'objectifs et puis ce mécanisme où chacun finalement met sur la table ses engagements volontaires avec une révision tous les 5 ans. Donc c'était le début d'une action structurée, organisée. C'était une COP très importante parce que c'est la première qui a réussi à obtenir un accord universel.
Voilà, Laurent Fabius et son marteau. Et juste après, la climatologue Valérie Masson-Delmotte au micro de Zoom Zoom Zen. C'était il y a des jours sur France Inter. Laurence Marty, vous êtes notre invitée, vous êtes anthropologue et vous publiez « Apprendre et lutter au bord du monde, récit de mouvement pour la justice climatique » aux éditions de La Découverte, alors que nous fêtons cette année les 10 ans justement de la COP21 et le démarrage de la COP de Belém, la COP30 sur le climat. Pourquoi d'abord cette COP21 constitue pour le mouvement français une fenêtre gigantesque à la fois médiatique et politique ?
C'est un moment important parce que c'est une occasion. En fait, aussi, une COP, c'est quand elle arrive sur un territoire national, c'est une occasion pour structurer un mouvement, et parce qu'on sait que tous les regards médiatiques vont être à cet endroit-là. Donc, c'est comment on se saisit de cette fenêtre, quoi. Et après, il y a aussi une attention qui est d'autant plus forte que c'est une COP de laquelle on attend un accord international, qui n'est pas le cas de toutes les COP. Enfin, une COP, il y en a une tous les ans. Et la COP la plus importante d'avant, c'était celle de Copenhague, dont on vient de parler, qui avait signé l'arrêt de l'espoir d'un accord contraignant top-down, quoi. Et donc, là, l'accord de Paris, c'est la France qui, un peu, pavane et dit qu'elle va être la grande diplomate du climat, quoi.
Ouais, donc il y a des attentes très fortes de la part des militants, évidemment.
Alors, c'est ambigu parce que, justement, pour éviter de reproduire
l'échec cuisant de Copenhague,
gueule de bois de post-Copenhague, l'échec cuisant, il y avait eu des mobilisations qui ont été incroyables, mais en tout cas, en termes de pression et d'attente d'influence sur les décideurs, c'était niet. Et là, donc, du coup, les militants s'organisent par rapport à la COP21 avec l'idée en amont que l'accord qui va être signé sera un accord meurtrier. Enfin, ce ne sera pas l'accord dont on a besoin. Et pire encore, ce sera encore un peu une simulation où des États se mettent en scène et ils vont prendre les mesures nécessaires. Alors qu'en fait, on sait très bien que la reine des COP est... beaucoup plus imprégné des lobbies et des multinationales que des voix des militants et de la société civile. Et donc, au sein de la coalition Climat 21, qui est donc une coalition qui va rassembler plus de 120 collectifs et associations autour de la COP21 et qui va un peu coordonner les mobilisations en France hexagonale, il y a cette idée dans le discours explicite de dire on n'attend pas de cette COP un accord, on attend de cette COP la possibilité de lancer un mouvement fort, de devenir beaucoup plus puissant en termes de nombre et d'organisation, d'utiliser la COP comme une rampe de lancement, quoi.
Pour pouvoir durer au-delà de cette COP.
Et dans le but de s'organiser pour après, parce que les solutions, on les a, c'est pas les États qui les promeuvent, ouais. c'est dans les mouvements qu'elles sont. Et il y a aussi l'idée de pousser pour un cadrage de la question climatique qui prenne le contre-pied de celle qui est la plus commune dans les arènes médiatiques et politiques, qui est de dire la question climatique, c'est pas... Enfin, en gros, de sortir des discours culpabilisateurs et individualisants, type couper le robinet, etc.
Ouais.
Dire...
Faut pointer les responsables,
voilà,
là. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, pour sortir de ce discours individualisant et culpabilisateur, pardon, il y a l'idée de pointer les responsables, pointer ce qu'on va appeler les criminels climatiques, et en même temps de ancrer profondément la question climat dans une question politique, en fait, de dire que la crise climatique, c'est le symptôme d'un système capitaliste, colonial, patriarcal, et c'est pas du tout une question cosmétique ou de nature ou de juste de gaz à effet de serre. Enfin, pour enrayer cette crise, ça implique un changement systémique, et la coalition Climat 21 et les organisations autour qui vont se mobiliser à ce moment-là vont vraiment pousser pour ce cadrage qui est un cadrage très politique et qui est très peu existant encore en 2015.
Mais est-ce qu'il va produire des effets, ce cadrage, sur les messages publics, précisément, pendant la COP21, ou pas ?
Alors, je me souviens qu'à l'époque, Hollande avait repris le terme de justice climatique, ce qui faisait bien rire les militants, parce que, en vrai, c'était pas le même... Enfin, du coup, le terme a été un peu galvaudé à un moment, mais je pense pas que c'était dans la même... dans la tradition politique que les militants utilisent, qui est donc la justice climatique, c'est un mouvement qui s'hérite, enfin qui est produit par à la suite du mouvement altermondialiste et de sa rencontre avec les luttes environnementales contre le nucléaire décroissante et avec les luttes pour la justice environnementale, qui sont des luttes qui datent des années 90, portées par des populations noires, latino, indigènes, qui disent l'écologie, c'est pas une question de nature extérieure ou de réserve naturelle, c'est une question de vie ou de mort sur nos lieux d'habitation, sur nos lieux de travail, etc. Mmh. Et donc, du coup, il y a quelque chose de très radical dans ce cadrage qui va
vraiment avec les discours
voilà,
publics. Hein,
et qui
clairement.
Est profondément décolonial et antiraciste. Mmh. Et ça, c'est quelque chose voilà, que... je vous fais pas un dessin.
Qui n'est pas diffusé du tout dans la parole publique des dirigeants qui se réunissent donc, en France au moment de cette COP21. Vous êtes où, vous, d'ailleurs, Laurence Marty, concrètement, physiquement, en tant qu'anthropologue, à ce moment-là ?
En Ile-de-France.
Vous êtes là, hein,
ouais.
sur les lieux, justement,
oui,
où tout
vraiment...
se passe. Il valait mieux être là, effectivement. Oui. Vous avez donc quitté l'Aubépine pour aller directement là. Un an avant la COP21, il y a un collectif qui s'appelle Toxic Tour Détox 93, qui commence à organiser des visites guidées autour de l'idée des inégalités environnementales dans le département de la Seine-Saint-Denis. Oui. Et ça va se poursuivre pendant la COP d'ailleurs. On va écouter un reportage de décembre 2015 d'Acti Vidéo à ce sujet.
Approchez devant le stand d'Engie pour le Toxic Tour, l'un des six grands sponsors de la COP21. Engie est l'une des plus grandes entreprises françaises de charbon. Elle a fait beaucoup de lobby contre les standards d'émissions de CO2.
Nous étions des centaines à l'intérieur et nous voulions juste dénoncer les faux discours des entreprises qui se présentent sur la plateforme Solution 21. Nous ne nous tairons pas, nous ne lâcherons rien. La transition existe, nous la portons, nous sommes là. Et il est hors de question que des entreprises continuent de nous mentir comme ça.
Voilà, le Toxic Tour 93 qui vise à élargir au-delà des cercles habituels, Laurence Marty, et qui voit, on fait un travail bien en amont justement de la COP21, parce que ça a commencé bien avant.
Bah, le Toxic Tour Détox 93, c'est du coup un collectif dans lequel j'ai été impliquée et qui fait partie des expériences militantes qui sont racontées dans le livre. Et alors là, plus précisément, le moment qu'on vient d'entendre, c'était porté par une coalition d'organisations dont le Toxic Tour 93 faisait partie, parce qu'en fait la tradition du Toxic Tour, donc là le mot de Toxic Tour est repris par les militants, mais en fait c'est une pratique politique qui vient des mouvements pour la justice environnementale, donc qui a été inventée qui a déjà deux décennies quoi, quand elle est reprise par des militants de Seine-Saint-Denis. Et c'est l'idée de visiter, il y a un peu deux possibilités, soit visiter des quartiers, des lieux de vie pour dénoncer les usines, les infrastructures polluantes, etc., qui affectent les populations les plus précaires, les populations racisées, etc. Et il y a aussi une version de Toxic Tour Lobby Tour qui consiste à dénoncer le greenwashing, mais qui est quand même assez hallucinant.
C'est ce qu'on entendait dans l'extrait, là, avec Engie,
qui,
par exemple. Hein.
Qui est que dans les arènes, enfin dans les multiples endroits qui sont pensés en parallèle de la COP21, il y a cet événement au Grand Palais qui s'appelle Solution COP21, dans lequel on retrouve il y a des entreprises comme Nissan, Danone, enfin des grandes multinationales qui viennent expliquer leurs solutions pour le climat. Enfin, c'est vraiment
c'est le verdissement corporate.
C'est d'un cynisme. Enfin, hein, et du coup, l'idée de ce Toxic Tour, c'était de donner la parole à des, parce que comme au moment de la COP, des militants de partout dans le monde affluent, il y a l'idée de leur laisser la parole pour dénoncer comment en fait ces entreprises détruisent.
C'est ça. Donc c'est nommer, c'est ce que vous disiez, les responsables et les rendre visibles leur conflit d'intérêts et le greenwashing qui se voit comme le au milieu de la figure quand on est un petit peu aguerri quand même.
Ouais. Et sur le Toxic Tour, peut-être, sur le Toxic Tour 93, un des points qui était important, donc ça a commencé à s'organiser plus d'un an et demi avant la COP 21, et c'était aussi l'idée qu'on appelle ça la COP de Paris, mais en fait elle allait avoir lieu au Bourget, donc qui est dans le 93.
Absolument.
Et que le 93, c'est un des lieux, un des départements les plus populés, les plus pollués et les plus pauvres de France, et comment du coup, on essayait de problématiser ces questions des inégalités environnementales et climatiques qui étaient très très peu présentes dans le mouvement français hexagonal à l'époque. Donc c'était ça l'enjeu.
Avec un contexte tout à fait particulier, l'état d'urgence après le 13 novembre 2015. Hein, ces deux événements, finalement, viennent s'entrechoquer, ce qui a brutalement reconfiguré la séquence de la COP21. Qu'est-ce qu'ont révélé d'ailleurs les chaînes humaines, les remaniements des actions concernant ce qu'on peut appeler la résilience organisationnelle au sein justement de ce qui se passait à la COP21
Donc oui, le 13 novembre, il y a les attentats au Stade de France, dans le 11e et au Bataclan. Et dans la soirée même, l'état d'urgence est promulgué par le président. Et très vite, on apprend que tous les rassemblements sont interdits. Donc en gros, tout ce qui avait été prévu par la coalition Climat 21 depuis un an et demi, et donc 120 organisations, donc des milliers de personnes, ne peut pas avoir lieu. Parce que un rassemblement, c'est plus de deux personnes portant un slogan, une pancarte. Donc,
qu'est-ce qui se passe pour maintenir quand même le message commun ?
Il y a un truc de choc très fort parce que tout le monde est très affecté par ce qui se passe. Parce que c'est des attentats par la puissance de la répression, parce que l'état d'urgence devient un prétexte pour perquisitionner, assigner à résidence, évidemment en premier lieu la communauté musulmane qui va vivre une vague d'islamophobie hyper puissante à ce moment-là, mais aussi les militants écolos. Et donc il y a dans l'urgence là, comme ça, à 15 jours de la COP, parce que c'est le début, le premier temps de mobilisation était prévu le 29 novembre. Il faut tout réinventer, sachant que les équilibres entre les organisations et les points de consensus qui ont été trouvés sont très fragiles, parce que dans la coalition Climat 21, on va retrouver Climate Justice Action, qui est un réseau européen autonome, et WWF, qui est une asso de protection de la nature beaucoup plus mainstream. Donc tout ça, c'est un peu un jeu d'équilibriste. Mmh. Et du coup, c'était assez impressionnant. Tout plein de solutions vont être trouvées. Dans un premier temps, l'idée de faire une manifestation ou d'être dans l'espace public est complètement abandonnée parce que les rassemblements semblaient interdits. Donc du coup, les militants pensaient plutôt faire une exposition avec tout ce qui avait été prévu pour les pancartes, etc. Et finalement, une chaîne humaine sera organisée. Et voilà, c'est toujours chercher les interstices, la zone grise de ce qui est autorisé et pas autorisé par la préfecture. Quoi.
Et faire preuve d'une grande plasticité, évidemment, avec le tragique aussi des événements et cet état d'urgence imposé. 10 ans après la COP21, les paysages, évidemment, ont largement changé. Reste à interroger ce qui tient aujourd'hui, hein, ce qui se transforme, ce que la COP30, donc aujourd'hui, remet sur la table à Belém, au Brésil. On va en parler dans un instant. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous, Laurence Marty, sur la page de la Terre au Carré, nos réseaux sociaux et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré.
Madame la Présidente, notre doctorante ici présente, Kate Dibiaski, a découvert Une très grosse comète.
Ah.
Oui.
Bravo.
Ce que le docteur Mindy essaie de vous dire, c'est qu'il y a une comète qui fonce droit sur la Terre.
Les conséquences seront bien plus catastrophiques. Il y aura des tsunamis gigantesques de plusieurs kilomètres de haut qui déferleront sur tout le globe. Si cette comète nous percute, elle sera un milliard de fois plus puissante que la bombe qui a détruit Hiroshima.
Bien. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Laurence Marty, vous publiez « Apprendre et lutter au bord du monde » aux éditions de La Découverte et à l'instant un extrait de « Don't Look Up » avec Meryl Streep en présidente des États-Unis et Leonardo DiCaprio dans celui d'un scientifique qui peine à se faire entendre. On entend le cynisme là, de la présidente américaine. La comète, ça peut être aussi le réchauffement climatique ou l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui.
Oui, mais ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est qu'on a l'impression qu'elle s'en fout, alors qu'en fait, je pense que, en tout cas, là, c'est un choix, en fait, politique de pas agir, parce que, enfin, cette idée que la science, qu'on n'aurait pas assez, en fait, ça fait quand même, je pense, depuis 92 qu'on sait ce qui se passe et que rien n'est fait. Et du coup, je pense que c'est pas juste de la désinvolture, c'est vraiment aussi un choix conscient en fait, ce qui est plus inenvisageable, c'est la régulation du capitalisme néolibéral plutôt que essayer de préserver un monde juste et habitable pour tous, quoi.
Dans votre livre, vous écrivez que le monde dans lequel on ne voulait pas basculer en 2015 est advenu. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu exactement?
c'est plutôt suite à l'apparition du livre. Hein. Donc, c'est les 10 ans de la COP et... ce qui est assez intéressant, enfin, ce qui m'a questionné dans les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes, avec des militants suite à la sortie du livre, c'est ok, qu'est-ce qui a changé en fait entre 2015 et aujourd'hui? Et en 2015, on avait quand même ce discours de il reste tant d'années pour agir avant que. Et c'est bon, et de toute manière, ça c'est un truc qui est tout le temps rethématisé, le nombre d'années, le délai, c'est quelque chose.
Le pied du mur.
Voilà,
aussi.
Ça c'est un truc qui existe. Depuis la peur du cataclysme nucléaire dans les années 70. Enfin bon, du coup, c'est pas nouveau, mais il y avait quand même cette histoire de il nous reste tant de temps avant pour éviter l'impossible, quoi, ou ce qu'on ne souhaite absolument pas qu'il arrive. Et en disant, il y a eu comme un basculement, je pense, vers un monde. Le monde des méga-feux, des inondations, de la montée du fascisme, qui était aussi une des choses que redoutait absolument le mouvement pour la justice climatique en 2015. En fait, on est en plein dedans. Et du coup, le monde d'aujourd'hui, il est tellement différent parce que aussi, c'est, l'idée qu'on peut être à l'abri de ce qui va se passer, c'est quand même beaucoup plus difficile de croire ça, parce qu'on est touché sur notre territoire hexagonal aussi, quoi, parce que les dom-toms étaient déjà touchés depuis bien longtemps, sauf qu'on les oublie tout le temps. Et du coup, il y a quelque chose de très vertigineux, en fait, avec ce que des chercheuses comme Naomi Klein, Astra Taylor vont parler de technofascisme et de fascisme de la fin des temps. C'est ça le terme qu'elles utilisent. Et comment il y a aussi tout un discours climato-négationniste, alors que c'est impossible de... Enfin, qui s'est renouvelé. C'est plus le climato-scepticisme où on pouvait dire « Ah non, le dérèglement climatique, ça n'existe pas vraiment. » Là, il y a un truc, c'est très actif de produire du mensonge et de la confusion politique sur cet enjeu.
Et pour les organisations, justement, les mouvements pour la justice climatique, la répression aussi a fait une entrée assez spectaculaire ces 10 dernières années.
Oui, et je pense que le livre, il est intéressant aussi pour ça, parce que en fait, 2015, c'est donc le début d'un cycle pour les mouvements climat qui vont prendre beaucoup d'ampleur jusqu'à un moment un peu de climax. Ça fait jeu de mots, pardon. En 2018-2019, avec les marches pour le climat qui vont rassembler des milliers de personnes. Mais c'est le début comme ça de ce cycle, mais c'est aussi le début d'une répression ultra forte qui commence avec l'état d'urgence, qui va être prolongé, qui va devenir finalement une loi sécuritaire en 2017. Ensuite, il y a le mouvement pour la loi contre la loi travail, le mouvement des gilets jaunes. Et en fait, il y a une répression qui va se généraliser, qui atteint aussi un point de paroxysme avec le moment du Covid-19. On va s'habituer aussi à un état beaucoup plus policier, beaucoup plus sécuritaire. et fascisant. Et la violence policière, elle va s'exercer sur les corps, y compris des militants qui étaient beaucoup moins concernés quand même par cette violence que d'autres.
On l'a vu avec Sainte-Soline, évidemment, et les vidéos révélées la semaine dernière, par exemple. Aujourd'hui, donc, la tenue de la COP 30 à Belém concentre également toutes les contradictions. Ça se déroule au sein de l'Amazonie, au lieu de la déforestation et de l'extractivisme, alors que la forêt est évidemment vitale pour les peuples autochtones qui y vivent. On va justement écouter tout de suite un leader d'une communauté autochtone du Brésil.
Le modèle d'organisation de la COP 30 n'est pas satisfaisant pour nous, les vrais protecteurs de la forêt. Les chefs d'État, dont beaucoup n'ont jamais mis un pied en Amazonie, veulent discuter entre eux du climat, sans nous, les habitants qui connaissons le fonctionnement de la forêt.
Voilà, c'était hier dans le journal de 8h de France Inter. Cette COP sera celle de la société civile, c'est la promesse du président Lula à Belém. Les atteintes sont fortes après trois COP où les ONG, les représentants du peuple n'étaient pas les bienvenus. Est-ce que vous, Laurence Marty, vous êtes optimiste à ce sujet? Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, du sommet des peuples organisé en parallèle de cette COP 30?
C'est très important, je pense, ce qui se passe autour de la COP 30 parce que, encore une fois, c'est un peu les... Le mouvement pour la justice climatique n'attend pas qu'un accord contraignant et global soit signé. Enfin, on a bien compris que ça n'allait pas arriver. Mais après trois COP dans des États, dans des pétro-États, Azerbaïdjan, Émirats Arabes Unis, Égypte, qui signaient des accords sur les énergies fossiles en parallèle des négociations climatiques, là on est sur un territoire qui, même s'il y a plein de contradictions et qu'il y a des permis de grands projets qui ont été... passé au Parlement brésilien cet été, il y a quand même une fenêtre politique qui s'ouvre. Et c'est très symbolique aussi parce que cette COP se passe au Brésil, donc qui fait écho au sommet pour la Terre de 92. Enfin bon, il y a toute cette histoire, l'Amazonie, les peuples autochtones qui demandent à avoir une voix au même titre que les États. Mais en fait, pour le mouvement, ce qui va se passer, c'est pas ce qui va se passer dans l'arène multilatérale, qui reste important, parce que en fait, tout ce qui peut être arraché est vital. Enfin, c'est pas une question. C'est vital en fait. Les 1,5 degrés qui avaient été arrachés par les pays du Sud pour la COP 21 comme objectif, certes, juste un objectif, mais c'est vital. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est surtout le sommet des peuples qui va être une organisation de se structurer, de s'organiser et de continuer à s'organiser au niveau transnational.
Tout ça dans un contexte où des études scientifiques montrent que les écosystèmes amazoniens, sous les pressions du chaos climatique justement et de la déforestation, pourraient irrémédiablement se dégrader ou se transformer en savane. C'est des études très récentes là. Donc c'est un contexte là aussi très très particulier pour ces voix qui essaieront en tout cas de se faire entendre à la COP 30 de Belém parallèlement aux négociations entre les États. On va passer aux questions pour vous, Laurence Marty. Et Lucille qui vous demande qu'est-ce que vous gardez comme actions qui ont fonctionné par le passé pour préparer les actions pour les COP actuelles ou à venir? Très bonne question.
Merci beaucoup Lucille pour votre question. Je pense que en fait le livre c'est vraiment l'idée de multiplier des récits de choses qui ont fonctionné ou pas dans certains contextes, justement pour sortir de l'idée qu'il y aurait une bonne façon de faire et plutôt de re-raconter sans cesse comment l'intelligence collective, elle, se construit, qu'est-ce qui est imaginé dans tel contexte. Et donc les militants, au fil des récits, répondent à chaque fois les deux questions qui traversent le livre, c'est quel est le bon moyen pour s'organiser face au dérèglement climatique et quel est le bon sujet politique. Donc comment on sort aussi d'un mouvement... très blanc et très de classe moyenne, etc. Et du coup, le livre raconte à chaque fois des tentatives. Donc, Lucille, je vous invite à aller lire les récits.
Un témoignage de Yannick en 2005, dit-il, à Brest, ont monté le réseau d'initiatives et d'actions climat du Finistère, sensibiliser au dérèglement, mettre en avant toutes les possibilités de le limiter localement, covoiturage, éco-construction, etc. Tout le monde se foutait de nous 20 ans après. Il n'y a que le dérèglement climatique qui a avancé. Malheureusement.
Oui, Yannick, je pense que vous avez besoin d'un grand câlin.
Catherine, enfin, pour terminer, est-ce qu'on peut éventuellement espérer un prémisse de quelque chose de cette COP 30 là, qui démarre, Laurence Marty, selon vous?
C'est une question sur l'accord, du coup.
Est-ce qu'on peut espérer un prémisse de quelque chose, hein, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui nous permette de croire que la tendance catastrophique va être inversée?
Bah, je pense que c'est une COP qui est quand même importante et intéressante parce qu'il y a une grosse mobilisation qui s'organise et qui a plusieurs, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu cette mobilisation. Et donc je pense que suivre ce qui va se faire dans le sommet des peuples, il y a déjà un manifeste qui a été écrit, on peut le trouver en ligne. Il y aura plein de textes et d'actions qui vont sortir de ce sommet des peuples. Donc je vous invite à aller regarder ça.
Donc quelques attentes quand même par rapport aux précédentes COP qui ont été vraiment catastrophiques. Merci beaucoup Laurence Marty. Apprendre et lutter au bord du monde, récits et de mouvements pour la justice climatique, c'est aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu en parler aujourd'hui au micro de La Terre au Carré.